je reprends en essayant de donner des exemples, hein, ce qu'on me demande. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner des exemples dans l'écriture des diverses significations que peut avoir le sens littéral? Alors, je reprends pour que nous soyons habitués bien en face de ça. Ce qui caractérise l'auteur de l'écriture sainte, qui est Dieu, c'est que Dieu peut se servir non seulement de la parole, mais aussi des réalités pour signifier quelque chose. Alors ça, c'est la grande affirmation que donne saint Thomas au point de départ. Et c'est très important, parce que ça nous fait tout de suite comprendre que dès qu'on parle de parole divine, vous voyez bien que c'est de fait analogique. Puisque la parole humaine n'a plus de signification, la parole divine peut avoir des significations diverses. Parce que la parole signifie telle chose, et à partir de là signifie autre chose. Or, il est au pouvoir de Dieu d'employer pour signifier quelque chose non seulement les mots, ce que peut faire aussi l'homme, mais également les choses elles-mêmes. Quand il est prophétisé, par exemple, le lion Juda, des exemples classiques, je prends exprès, lion de Juda. Lion de Juda exprime d'abord, évidemment, le lion, le Juda, prophétisé. Mais la réalité profonde est exprimée prophétiquement par le Christ. Eh bien, le lion de Juda exprime le Christ. Alors, on va me dire métaphoriquement, est-ce que c'est la signification propre immédiate? Quand Jésus dit, il est le pain de vie. Je suis le pain. Le pain exprime une réalité habituelle et en même temps ce pain exprime quelque chose d'autre chose, un aliment divin. Et cet aliment divin, c'est Jésus. Je suis le pain de vie. Donc, la parole exprime, vous voyez, un double jeu de signification. Et je crois que c'est ça que toute la difficulté pour nous. C'est le double jeu de signification. C'est la signification première, immédiate, et à travers cette signification, autre chose est exprimée. Tandis que la parole habituelle ne signifie qu'une seule chose. Lorsque donc, que dans toutes les sciences, les mots ont valeur significative, celle-ci a en propre que les choses mêmes signifiées par les mots employés signifient à leur tour quelque chose. Cela étant, la première signification, à savoir celle par laquelle les mots signifient certaines choses, correspond au premier sens, qui est le sens historique et littéral. Le premier sens, hein, très simple, on dira, c'est le sens, tout simplement, de la parole de Dieu comme elle est la parole humaine. L'autre signification pour laquelle les choses signifiées par les mots de nouveau signifient d'autres choses, c'est ce qu'on appelle le sens spirituel, qui est fondé sur le sens littéral et le suppose. Oui. Les mots expriment une autre réalité, le pain, qui va exprimer autre chose. Alors, sens spirituel, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », est-ce que le pain de vie a comme sens littéral Jésus ? Ou comme sens spirituel et mystique. Oui, la difficulté est là. J'analyse le pain. La signification du pain, c'est quoi? C'est le pain, l'aliment. Et quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », quelle est la nouvelle signification? Nous faisons, nous, télescopage immédiat au point de vue de notre foi. Nous sommes tellement habitués d'avoir entendu ça que tout de suite, « Je suis le pain de vie », immédiatement. Mais si j'analyse le langage. Dieu se sert du langage des hommes. Dieu n'a pas inventé un autre langage. Il se sert du langage des hommes. Donc, il respecte la signification première du langage des hommes. Et la signification première du langage des hommes, c'est que le pain exprime le pain, tout simplement, l'aliment. Et cet aliment a une autre signification. Hein? C'est bien ça que ça veut dire. C'est la même chose pour le lion de Juda. Le lion de Juda, c'est très bien, c'est... Ça peut signifier le... Et alors, à partir de là, exprimer quelque chose de tout à fait différent. Alors, nous faisons, nous, le télescopage très rapidement. À son tour, le sens spirituel, alors, se divise en trois sens. C'est ça que nous allons essayer de comprendre. Hein. Se divise en trois. En effet, comme dit l'apôtre, la loi ancienne. Alors, ça, c'est d'une façon très globale. La loi ancienne. Et figure de la loi nouvelle. Allez, figure. La loi ancienne est figure de la loi nouvelle. Et la loi nouvelle elle-même, ajoute Denis, est figure de la gloire à venir. Donc là, un premier étage, un second. La loi à venir. En outre, dans la loi nouvelle, ce qui a lieu dans le chef est le signe de ce que nous-mêmes nous devons faire. Ce qui regarde en premier lieu l'analogue, le chef, donc en premier lieu le Christ, en second lieu les membres. La loi nouvelle regarde les deux. En outre, dans la loi nouvelle, ce qui a lieu dans le chef est signe de ce que nous devons faire nous-mêmes. Quand donc les choses de la loi ancienne signifient celles de la loi nouvelle, on a le sens allégorique. Donc, nous sommes ici en présence d'une allégorie. Donc un sens allégorique. Disons pas allégorique, disons allégorique, le sens allégorique. Pas l'allégorie. Nous sommes le sens allégorique. Quand les choses réalisées dans le Christ ou dans ce que signifie le Christ sont le signe de ce que nous devons faire, on a le sens moral. Le Christ est exemplaire par rapport à nous. Pour enfin les choses qui signifient la chose de la gloire, on a le sens anagogique. Tout ça, c'est le sens spirituel. Tout ça est inclus dans le sens spirituel. Comme d'autre part, le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier, alors c'est ça, cette partie importante, je vous ai dit, est difficile. Comme d'autre part, le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier. Et comme l'auteur de l'Écriture sainte est Dieu, qui comprend simultanément toute chose, dans la simple saisie de son intelligence, il n'y a pas d'obstacle, ainsi que le note Saint-Augustin, à ce que, selon le sens littéral même, dans un seul passage de l'Écriture, il puisse y avoir plusieurs sens. À ce que, selon le sens littéral même, dans un seul passage de l'Écriture, il peut y avoir plusieurs sens. Donc, si etiam secundum literam sensum, una litera scripturae, pluresum sensus. Que le sens littéral, donc, réalise plusieurs sens. Et la signification de plusieurs sens. C'est ça la difficulté. Le reste, c'est assez facile à comprendre, je crois. Alors, on va essayer. Si vous voulez, on peut prendre différents exemples. Je prends dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, parce qu'il faut lire dans l'Apocalypse, nous allons essayer de voir ces différents sens, le sens littéral, le sens allégorique, le sens analogique et le sens moral. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'était plus. Alors, au point de vue sens littéral, je prends textuellement ce qui est dit, hein. Je vis un ciel nouveau. Il le voit prophétiquement. C'est évident qu'il le voit prophétiquement, parce que ce n'est pas encore réalisé. Donc il le voit prophétiquement. Le regard prophétique vis-à-vis d'une réalité qui doit venir et qui n'est pas encore là reste un sens littéral. C'est bien évident, c'est ça que ça signifie en premier lieu. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, la mer n'était plus. Donc, quand vous avez affaire à une prophétie, le sens littéral, ce n'est pas narratif. C'est ce qui doit arriver. Même si ce n'est pas présent. Et je vis la ville sainte, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épousée parée pour son mari. Ah, alors ici, il y a une petite, petite comparaison intéressante. Hein, puisque je regarde la Jérusalem céleste, celle qui doit arriver, je vis la ville sainte, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Alors, est-ce que ça signifie en premier lieu Marie? Est-ce que ça signifie en premier lieu l'Église? Et c'est là où, de fait, vous pouvez dire que d'une certaine manière, le sens littéral peut être multiple. Il n'y a aucune raison de dire que nécessairement c'est l'Église et que ce n'est pas Marie. Exactement comme pour la femme. Hein. Parce que pour la femme, on a dit d'abord l'Église, puis après on a dit Marie. Et maintenant, la plupart des exégètes disent Marie en premier lieu, puisque c'est même dit dans le dictionnaire de théologie ascétique et mystique. Donc, c'est entériné. Donc, alors, on peut dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment Marie. Et en même temps, c'est l'Église. Donc, vous avez deux sens littéraux. Vous n'avez pas un seul sens. Vous avez deux sens littéraux. Ces deux sens littéraux sont unis. Sont unis. Il y a le Christ et l'Église, élément. Donc, il y a Marie et l'Église. Ça, on n'a pas donné de sens entre Marie et l'Église. Marie, c'est l'exemplaire et l'Église. Passage de l'un. Tout ce qui signifie Marie, regarde l'Église. Tout ce qui signifie le Christ, regarde nous. Est-ce qu'on est dans un sens? Donc, on est dans un sens spirituel et même moral. C'est tel que saint Thomas l'entend. Hein. Sens spirituel, moral. Est-ce que ce sens spirituel, moral peut devenir un sens littéral? Oui. Quand c'est de fait exprimé directement quand on dit par exemple la femme ou l'église ici, la vie, la Jérusalem céleste. Ça peut signifier les deux. Mais sous-jacent, il y a évidemment cet ordre. Alors, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épousée parée pour son mari. Je suis là en face d'un sens symbolique. C'est un symbole, ça, c'est évident. Parce que l'épouser, c'est je fais appel à un exemple plus connu pour exprimer quelque chose de moins connu. Alors on dira, nous, c'est une analogie. On dira que c'est un sens symbolique qui implique une analogie, c'est une comparaison qui est impliquée dedans. La comparaison, alors, est-ce qu'elle est du sens? Elle est dans le sens littéral, la comparaison. Puisque de fait, cette comparaison, cette épousée, par rapport à l'épouse, me fait comprendre l'Église par rapport au Christ. Donc, je suis là dans une comparaison impliquée. Est-ce que je peux dire que c'est un sens allégorique? Non, ce n'est pas un sens allégorique. Est-ce que je peux dire que c'est un sens analogique? Pas directement. C'est beaucoup plus, il me semble, un sens littéral impliquant une comparaison. C'est un sens littéral. C'est pas si commode que ça à voir, hein, sens littéral de la chose. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait: voici le séjour de Dieu avec les hommes, il séjournera avec eux, et eux seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, car les premières choses s'en sont allées. C'est toujours là un sens symbolique, c'est bien évident, un sens prophétique et symbolique, mais qui implique un sens littéral. On veut exprimer directement le mystère de la gloire. Et le mystère de la gloire est exprimé à travers nos expériences humaines. Donc il y a une analogie qui est impliquée dans ce symbole, et nous pourrons préciser ensuite, est-ce une analogie propre, une analogie métaphorique ? Ça, c'est le soin du théologien. Ça ne fait pas partie des sens de l'Écriture, vous voyez, au sens rigoureux. Je prends ça, tout simplement. Je prends un autre exemple. Hein. Dans Saint Jean, quand vous avez la grande comparaison du mystère de la vigne, chapitre 15, « Moi, je suis la vigne, la véritable, et mon père est le vigneron. » Est-ce que c'est un sens littéral ? Ce n'est pas un sens, ce n'est pas, vous voyez, c'est les difficultés quand je vois. J'arrive très bien à comprendre ce que dit saint Thomas, c'est très très clair comme schéma, c'est extrêmement clair comme schéma, c'est extrêmement, je sens, le sens littéral, bon, c'est celui que veut dire l'auteur. Mais l'auteur emploie des comparaisons, emploie des symboles pour exprimer une réalité qui m'échappe. Et donc le symbole et la comparaison qui est impliquée fait partie du sens littéral, directement. Tandis que si je prends en gros, vous voyez, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, exprime d'une manière allégorique le point de vue du Nouveau Testament. Le fils de la servante, ça c'est l'exemple de Saint Paul. Le fils de la servante et le fils de la femme libre. Le fils de la servante, la synagogue. Le fils de la femme libre, l'église. Ah, là, je suis devant un sens allégorique. Je me sers de l'Ancien Testament pour exprimer quelque chose du Nouveau Testament. Là, c'est très clair. Hein, et puis, c'est dit directement dans l'Écriture. Donc, c'est une allégorie. Alors, c'est très intéressant. On essaiera de le voir, parce qu'il faudra à tout prix un jour regarder ce que c'est que l'herméneutique, hein, et le regarder de près. Parce que c'est à partir de là que l'herméneutique est née. C'est à partir du sens allégorique. Hein. C'est à partir du sens allégorique. On a dit, comme dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament regarde le Nouveau Testament selon un sens allégorique, de même, vous voyez, et ainsi de suite. De même, tout ce qui est vécu ici sur terre exprime ce qui est vécu dans le ciel. Alors, vous avez un autre sens analogique. Mais il y a la même chose, si vous voulez, le même hiatus. Il y a un hiatus entre les deux. Donc, sens allégorique, ça, je crois que c'est assez facile à comprendre, le sens allégorique. Le sens allégorique n'est pas un sens littéral. Ça, c'est net. Donc, je ne peux pas, à partir de là, établir une théologie scientifique. Mais je peux m'en servir dans une théologie mystique. Vous voyez la différence? Dans une théologie scientifique, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je veux une signification qui implique une analogie propre. Alors, je ne peux pas, à partir de là, vous voyez, me mettre à donner une théologie scientifique. Mais je peux m'en servir au point de vue pour suggérer ce que représente le mystère de l'Église. Donc le sens allégorique dans l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Et on s'en sert constamment pour du mystique. Comment tout l'Ancien Testament exprime. L'autre jour, quand je vous parlais, par exemple, dans Saint Jean, en vous montrant les cinq premiers bénis de Dieu, bénis du Christ, les cinq premiers disciples qui sont choisis par le Christ. Jean, André, Pierre, Philippe, Nathanaël sont choisis. Jésus, c'est Dieu de Jean, d'André, de Pierre, de Philippe, de Nathanaël. Et je disais, ceci, si nous voulons bien le comprendre, est comme la reprise de ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, les cinq bénis de Dieu. Quand je fais ça, quel genre d'opération je fais? Je crois que c'est le sens allégorique. L'Ancien Testament m'aide à comprendre le Nouveau Testament. Il y a des analogies comprises dedans. Je passe de l'un à l'autre. Les bénis de Dieu dans l'Ancien Testament sont les bénis du Christ. C'est bien évident. Et l'Ancien Testament me donne d'une façon beaucoup plus explicite ce qui est donné d'une façon beaucoup plus avant. Alors, au point de vue théologie scientifique, je ne pourrais pas le faire. Au point de vue théologie mystique, je peux. Pourquoi ? Parce que la théologie scientifique se sert de tout le sens spirituel. Elle est beaucoup plus large, la théologie scientifique. Vous voyez ? La théologie scientifique laisse tomber, et ça, simplement, est très net là-dessus, hein, laisse tomber tous les sens allégoriques, tous les sens analogiques, tout le sens moral. Elle ne se sert que du sens littéral. Et elle ne peut servir que du sens littéral. Tandis que la théologie mystique peut s'en servir. C'est ce qui explique comment les pères de l'Église se sont servis énormément de tout cela. Tandis que dans saint Thomas, c'est assez asséchant. Sauf dans ses commentaires scripturaires, ou alors il n'hésite pas de s'en servir. Parce qu'il est en théologie mystique. Il n'est pas en théologie scientifique. Alors, le sens moral, ce serait de dire, dans l'Épître aux Hébreux, « Comme le chef est fidèle, vous devez être fidèle. » L'application. Ça, c'est très simple, c'est l'application. Le sens moral, c'est une application. Regardez ce qu'a fait Jésus, regardez ce qu'a fait Marie, et vous en faites l'application. Ça, c'est le sens moral. En mystique, vous pouvez le faire tout le temps. Parce qu'en mystique, c'est ce qu'on fera tout le temps. Jésus est l'agneau, il a accepté d'offrir sa vie, nous devons offrir notre vie. Oui, ça c'est le sens moral. Et au fond, c'est ce que font toujours les saints. Les saints regardent Jésus comme modèle, et pour être unis au modèle, ils vivent ce que Jésus a vécu. Vivre ce que Jésus a vécu, c'est le sens moral. C'est le sens mystique, le sens, vous voyez, le sens spirituel, moral, qui devient un sens mystique. Quand saint Thomas nous dit, les noces de Cana expriment le mystère de la raison. Il dit mystice. Est-ce que c'est un sens spirituel ou est-ce que c'est un sens littéral? Les noces de Cana expriment. Les noces de Cana expriment la raison. J'ai les noces de Cana. Quel est le sens littéral des noces de Cana? Le sens littéral des noces de Cana, c'est évidemment de représenter les noces. Mais ces noces expriment autre chose. Sens spirituel. Ces noces rappellent que la sagesse invite tout le peuple de Dieu à boire à cette âme, à des noces de la sagesse. Donc, à travers le sens littéral, vous touchez le sens spirituel. Ce sens spirituel, c'est de rappeler tout simplement autre chose. Et c'est par ce sens spirituel que je peux rejoindre le sens mystique. Donc, je dirais que c'est un sens spirituel mystique. Et vous voyez comment le sens mystique assume tous les sens spirituels. Moi, je crois. Sans être nécessairement des sens spirituels, sans être nécessairement un sens littéral. Est-ce que vous voyez ça un peu?
Oui. Ce sens mystique pour les noces de Cana, est-ce qu'il est, il n'est pas allégorique?
Non, il n'est pas allégorique, il est moral. Il est spirituel, en ce sens que, vous voyez, à travers ces noces, Jésus veut nous parler d'autre chose. Or, cette autre chose a été révélée par le fait des rites de la sagesse. Donc, je peux mettre la relation, puisque ça a été révélé. Je peux donc découvrir, au-delà du sens littéral, un sens spirituel. Je peux regarder aussi que tous les gestes du Christ sont ordonnés à la croix. Alors, quand je dis que tous les gestes du Christ sont ordonnés à la croix, suis-je en face d'un sens spirituel ou un sens littéral? Et quand saint Augustin nous dit, cette grande règle d'exégèse, que saint Augustin nous dit, tous les gestes de la vie apostolique de Jésus ne peuvent se comprendre parfaitement que dans la lumière de la croix. Alors, est-ce que là, Saint Augustin nous donne une règle d'un sens spirituel ou d'un sens littéral. Qu'est-ce que vous dites? Là, c'est un principe que donne Saint Augustin. Je crois que là, nous sommes plus qu'en face d'un sens spirituel. Si je regarde les intentions de l'auteur, il est bien évident que toute la vie apostolique de Jésus, selon l'intention de l'auteur qui est l'Esprit Saint, est ordonnée à la croix. C'est sûr. Donc, je peux dire que tous les gestes du Christ, tous les gestes rapportés dans l'Écriture, ne peuvent se comprendre parfaitement que dans la lumière de la croix. Donc, je suis en face d'un sens littéral. Je viens d'obliger de le dire. D'un sens littéral plaigné. Enfin, c'est ce que les exégètes d'aujourd'hui ont inventé. C'est un brand, il dit toujours ça. Il a raison. Un sens littéral plaigné. C'est-à-dire que ce geste ne peut se comprendre que dans la lumière plénière de la croix. Alors, à ce moment-là, il a toute son intelligence. Alors c'est bien un sens littéral plaigné. Je crois qu'on veut dire un sens littéral plaigné parce qu'il est dans l'intention de l'auteur. Si je prends le principe que donne saint Thomas, le sens littéral correspond à l'intention de l'auteur. Il est bien évident que toute la vie apostolique de Jésus est tendue vers la croix parce que c'est son œuvre. Il le dit lui-même. Donc toute la vie apostolique de Jésus se comprend dans la lumière de la croix. Alors voyez, les noces de Cana à ce moment-là se comprennent dans la lumière de la croix. Dans la lumière de la croix, ce sens... Les noces de Cana expriment donc ce que Jésus réalise à la croix. Transformation de notre cœur en son cœur. Et ceci se réalise dans l'oraison. Alors à son âge, il y a un sens spirituel, un sens littéral. Et ce n'est pas du tout opposé qu'un sens que je dis d'abord spirituel, ensuite je comprenne qu'il est littéral. Et c'est ce que je crois, cette petite glose, que c'est ce que dit saint Thomas quand il dit cette petite parole qui, à première vue, est très évidemment difficile à bien saisir, mais qui, je crois, est quand même très importante quand saint Thomas montre ce point de vue-là. Quand il dit, comme d'autre part, le sens littéral est celui de l'auteur, celui que l'auteur entend signifier, et comme l'auteur de l'Écriture sainte est Dieu, qui comprend simultanément toute chose en la simple saisie de son intelligence. Donc il comprend Cana et la croix simultanément. C'est bien évident. Donc il comprend la croix simultanément. C'est bien ce qu'il dit, qu'il comprend simultanément toute chose dans la simple saisie de son intelligence. Il n'y a pas d'obstacle, ainsi que le note saint Augustin, à ce que selon le sens littéral même, dans un seul passage de l'Écriture, il puisse y avoir plusieurs sens. Donc vous puissiez trouver dans un sens littéral plusieurs significations. Il n'y a pas d'obstacle. Mais c'est ça qui est très difficile à manier. C'est très très difficile. Ça il faut bien le reconnaître. Parce qu'on ne va pas à chaque fois justifier. Je crois que le tout c'est de comprendre comment tous ces sens spirituels peuvent devenir un sens littéral. Mais alors ils peuvent devenir un sens littéral au sens plaigné dans la lumière de la croix. Moi, c'est comme ça que j'interprétais. Mais c'est pas commode. Hein. Alors, vous voyez, c'est pas de l'exégèse. Hein. Quand l'exégèse prend le sens littéral, il ne le prend pas du tout dans le sens de saint Thomas. Et alors, l'équivoque est là. Pour moi, l'équivoque est là. Parce que l'exégèse moderne prend le sens littéral, l'intention de l'auteur. Ça, c'est dit explicitement. Le sens littéral, c'est l'intention de l'auteur. Quand Jean raconte les noces de Cana, il raconte les noces de Cana. Saint Thomas dit, le sens littéral, c'est le sens de l'auteur principal, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint voit plus de choses que Jean. C'est évident. Alors, c'est là la difficulté. Et c'est là l'équivoque. Et je crois que c'est là l'équivoque entre le point de vue théologique, vous voyez, l'interprétation du théologien et l'interprétation de l'exégète. Je crois qu'il y a là équivoque qu'il faut comprendre. Vous voyez bien ça, les deux aspects. Le sens littéral, c'est le sens que veut l'auteur. Hein. C'est mal dit. Or, l'auteur principal de l'Écriture, c'est Dieu, donc l'Esprit Saint. Donc, le sens littéral, c'est ce que veut Saint-Esprit. Parce que l'auteur, l'homme, qui est un instrument, n'est qu'un instrument. Donc, en tant qu'il est instrument, il est tout entier relatif à la cause principale. Et donc, d'une certaine manière, il est un ami, il est un instrument. Alors, je peux discerner ce que lui peut comprendre et ce que l'Esprit Saint nous fait comprendre à travers lui. Je crois qu'on était obligé de faire la distinction. Alors, j'aurais le sens littéral historique et le sens littéral profond. Et je crois que c'est ce que ressent quelqu'un comme le Père Brown quand il dit le sens littéral plaignait. Que tous les exégètes n'acceptent pas ça. Hein. Mais quand il dit ça, je crois qu'il y a ça. C'est qu'il je ne peux pas savoir les intentions de l'Esprit Saint. C'est très vrai, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir ce que l'Esprit Saint a voulu, un jour nous le verrons. Mais actuellement, je ne peux pas le savoir. Ce que l'Esprit Saint a voulu faire comprendre quand il a inspiré à Jean de nous donner que le premier signe de la vie apostolique de Jésus, c'est Cana. Alors j'aurai le sens littéral historique et le sens littéral profond. Et je crois que c'est ce que ressent quelqu'un comme le Père Brown quand il dit le sens littéral plaignait. Que tous les exégètes n'acceptent pas ça. Hein. Mais quand il dit ça, je crois qu'il y a ça. C'est je ne peux pas savoir les intentions de l'Esprit Saint. C'est très vrai, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir ce que l'Esprit Saint a voulu, un jour nous le verrons. Mais actuellement, je ne peux pas le savoir. Ce que l'Esprit Saint a voulu faire comprendre quand il a inspiré à Jean de nous donner que le premier signe de la vie apostolique de Jésus, c'est Cana. Il ne peut pas dire j'ai reçu une révélation privée de l'Esprit Saint et puis je vous affirme c'est ça que le Saint-Esprit veut. Ce serait de l'illuminisme. Je n'ai pas le droit de baser ma théologie sur l'illuminisme. Hein, même si j'avais une locution particulière, je n'aurais pas le droit de baser ma théologie là-dessus, parce que ce serait une révélation privée. Donc, je ne peux que regarder ce que l'écrivain me dit. Mais je peux aussi regarder ce que l'écrivain me dit en fonction de tout ce qu'il me dit. Et donc, considérer que le principe que donne saint Augustin, toute la vie apostolique de Jésus, se comprend en fonction de la croix. Je peux donc regarder Cana dans la lumière de la croix. Si je regarde Cana dans la lumière de la croix, je ne suis plus en présence d'un sens littéral historique, je suis en face d'un sens littéral profond. Alors, je crois qu'on peut dire ça. Et ce sens littéral profond, vous voyez, assume certains sens spirituels. Et je crois que la théologie mystique, c'est de tout regarder dans ce sens littéral profond. C'est regarder toute l'écriture dans ce sens littéral profond, qui assume ces différents sens spirituels, allégoriques, analogiques et puis moraux. Dites-moi si vous avez des questions là-dessus, parce que c'est important, je ne veux pas m'attarder trop, mais oui.
Et on peut dire aussi que l'Esprit Saint a voulu nous dire tous les sens spirituels.
Ah oui.
Finalement, tout à fait. Ce sont des sens littéraux au fur et à mesure qu'on les comprend.
Oui. Ah. Non, vous voulez dire.
Les sens spirituels.
Oui, oui.
L'Esprit Saint a voulu aussi.
Ah, tout à fait. Donc, c'est évident.
C'est aussi l'intention de l'auteur.
Oui, mais l'Esprit Saint a voulu nous les dire comme des sens spirituels ou comme des sens littéraux. Oui. Oui, je vous renvoie la balle. Je ne peux pas dire que tout ce que l'Esprit Saint a voulu est nécessairement un sens littéral. L'Esprit Saint a voulu aussi se servir d'un langage qui implique ces différents aspects. Je peux le dire. Donc je ne peux pas dire que nécessairement, puisque le Saint-Esprit a voulu un sens allégorique, parce qu'il l'a voulu, c'est un sens littéral. Non. C'est ce que l'Esprit Saint, c'est ce que l'auteur principal entend dire immédiatement. Vous voyez ?
Oui. Est-ce que ces distinctions soient plus nettes et plus applicables pour les récits historiques de l'Ancien Testament que pour les choses, plus les discours de Jésus de
Nouveau ? C'est évident que le sens allégorique, c'est l'Ancien Testament. Vous voyez ? Donc là, l'Ancien Testament est présent. Ça, c'est sûr. Cette distinction est beaucoup plus valable. Mais elle est valable aussi par rapport au texte de l'Apocalypse. Puisque je passe de la loi nouvelle à la gloire. Je ne suis pas encore dans la gloire. Donc ça demeure. Vous voyez, je ne suis pas encore dans la gloire. Et je suis membre du Christ. Et donc je dois toujours imiter, donc le sens moral existe toujours. Vous voyez ? Donc ça existe aussi dans la Nouvelle Alliance. Et ça existe. Le seul qui existe uniquement dans l'Ancien Testament, c'est le sens allégorique, ça c'est sûr. Les autres existent encore. Vous voyez ? Et ne sont pas un sens. C'est pour ça que je prenais l'exemple des noces de Cana. Quand je dis les noces de Cana, mystice, ça c'est, pour moi c'est quand même très important à saisir ça. Quand les noces de Cana, mystice, exprime le mystère de l'oraison, donc les noces de Cana, regardez mystiquement, regarde le mystère de l'oraison, transformation de notre cœur dans le cœur du Christ, quand saint Thomas dit mystice là, est-ce que saint Thomas veut exprimer un sens littéral? Il ne dit pas mystice ici. Bien dommage. Est-ce que saint Thomas veut exprimer là un sens littéral profond? C'est pour ça qu'il dit mystique. Ou est-ce que saint Thomas veut exprimer un sens uniquement moral, spirituel? Oui. Ça, c'est intéressant à voir. Là, il y a un petit problème qui est direct. Et qui est indirect dans le langage même de saint Thomas. Je crois que quand saint Thomas dit mystice, il reste dans le sens littéral. Et pas spirituel dans le sens qu'il emploie ici. Mais un sens littéral profond, qui nous fait toucher le mystère dans ce qu'il a de plus profond. Quand il nous dit, par exemple, que la parole de Dieu contient toujours le mystère du Verbe de Dieu, et parce que la parole de Dieu contient toujours le mystère du Verbe de Dieu, toute parole divine spirant sa morène, toute parole divine spire l'amour. Quand il nous dit que toute parole divine spire l'amour, ce n'est pas le sens spirituel, c'est le sens littéral. Mais le sens littéral, mystique. Oui. C'est difficile, hein. Je vous dis ce que je pense, parce que je crois que c'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Mais c'est pas comme à vivre. Parce que c'est pas non plus très clair dans un domaine. On voit très bien pour certaines choses. On voit très bien que Saint-Thomas résume des tas de choses et perd de l'Église. Hein. C'est très facile. Mais on aurait aimé que. Ils nous disent, à propos du sens littéral, il y a un sens littéral historique, il y a un sens littéral profond, qui est mystique. Ben, il ne le dit pas. Je ne crois pas. Oui.
Certaines personnes disent que les chiffres ont un sens
symbolique.
C'est symbolique, c'est, oui. C'est pas littéral. Parce que l'intention de l'auteur.
Sûrement que c'est symbolique. Ben, le sens symbolique reste littéral. L'auteur nous exprime certaines choses d'une manière symbolique parce qu'on ne peut pas les recevoir autrement. Alors il veut cacher ce qu'il nous dit. Et c'est pour ça qu'il le dit symbolique, d'une façon symbolique. Jésus parle en parabole pour ne pas scandaliser. À vous, il est donné le mystère des paroles de Dieu. Mais il parle d'une façon symbolique. Si Jésus nous parle d'une façon symbolique à travers les chiffres, c'est pour que de fait, ce soit à la fois voilé et révélé. Oui. C'est un sens littéral, c'est évident, chiffre. Et quand il nous parle de la bête avec cette tête, il ne faut pas se représenter une bête. C'est sûrement pas ça que ça veut dire. Le sens littéral, c'est symbolique que représente la bête. Et la bête symboliquement exprimant le démon uni à l'homme. Vous voyez ? Alors là, j'interprète, comme toujours dans un symbole, on doit interpréter. Mais l'interprétation d'un sens symbolique. Vous voyez ? Oui.
La théologie scientifique regarde-t-elle le sens littéral historique ou le sens littéral mystique ?
Justement, c'est là où saint Thomas ne précise pas beaucoup. Pour moi, je crois que la théologie scientifique regarde le sens littéral plus qu'historique, puisque le sens littéral, selon l'intention de l'auteur, regarde le mystère. Donc c'est plus qu'historique. C'est pour ça que quand il dit, vous voyez, dans cette petite phrase qui est toujours un peu gênante, moi j'avoue, c'est un peu gênant, mais ça me gêne un peu, ça fait le bonheur des exégètes, mais ça fait le malheur des autres, c'est sûr, quand dit saint Thomas dit sens littéral ou historique. Hein, c'est pas commode à saisir, ça. Ben, il le dit, il faut bien le voir.
Alors quand il dit ça, vous voyez, c'est là où on peut dire qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Quand il exprime ce point de vue-là. Historicus vel literalis. Alors le vel literalis, ça peut dire, vous voyez, ou littéral. Alors ou littéral, ça veut dire égal, ou ça veut dire ou, deux sens différents. Sens historique, mais oui, il y a le sens historique. Et puis il y a le sens littéral. Et c'est ce que je crois comme ça. Il y a le sens, et non pas égal, alors qu'on dit toujours égal. Alors que ce n'est pas comme ça. Il y a le sens historique. Alors, on narre quelque chose. Il y eut des noces de Cana. Ben oui, il y eut des noces de Cana. On narre. Sens historique. À Cana, il y a eu ça. Sens historique. Et le sens littéral. Ah, ce que intendit l'auteur principal. À travers ce fait, il désire toucher ça. Alors à ce moment-là, vous ne limitez pas du tout le sens littéral au sens historique. Vous mettez le sens littéral en profondeur. Oui. Puisque c'est l'intention de l'auteur. Or, l'intention de l'auteur, vous comprenez bien que le Saint-Esprit ne veut pas nous narrer une noce. Ben, non, c'est autre chose qu'il veut nous donner. Il veut nous narrer, c'est pas un fait divers quand même. Saint-Esprit n'est pas l'auteur d'un journal. C'est tout ça, donc c'est pas des faits nouvelles. À travers ces faits, il nous narre quelque chose d'autre. Il signifie quelque chose d'autre. Et donc, il signifie quelque chose de profond. Alors, à ce moment-là, il n'y a aucune difficulté à comprendre ce sens profond. Alors, Saint-Thomas ne dit jamais que la théologie scientifique repose sur le sens historique. Il dit toujours sens littéral. Donc, c'est ce veil-là qui est très délicat, vous voyez. Alors, je crois qu'il faut mettre sens historique et sens littéral. J'aimerais mieux mettre les deux. Sens historique. Alors, on dit veil parce qu'au fond, d'une certaine manière, le sens historique est contenu dans le sens littéral. Le sens littéral va beaucoup plus loin que le sens historique. Il peut aller beaucoup plus loin, parce qu'il atteint même le mystère. Et le mystère n'est pas historique, par définition. Un mystère n'est jamais historique. Bon. Ça va comme ça? Pas d'autres questions? Si vous trouvez des difficultés, notez-les, hein. C'est un très bon exercice, ça. Je crois que c'est très bon de faire cet exercice quand vous lisez l'écriture de temps en temps, pas tout le temps, hein, parce que autrement, alors, vous n'avez pas pendant le temps de la méditation, surtout pas sens littéral, sens analogique, sens allégorique, sens. Non, ne faites pas ça. Lisez l'écriture, et puis de temps en temps, alors, faites une petite analyse. Dites, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, je vous ai dit, hein, parce que, après avoir regardé ce que nous dit saint Thomas sur la théologie, c'est-à-dire, il est possible que le croyant se serve de son intelligence humaine pour rejoindre, à travers le langage révélé, l'enseignement de la sagesse de Dieu. C'est ça la doctrina sacra. Et je crois qu'on peut dire de cette manière-là. Il est possible que le croyant intelligent, parce que n'est théologien que le croyant intelligent, n'est-ce pas? C'est le privilège du croyant intelligent d'être théologien. Parce que si le croyant n'est pas intelligent, il est difficile pour lui d'être théologien. N'est-ce pas? Il peut être croyant sans être intelligent, heureusement. Mais il ne peut pas être théologien sans être intelligent. Donc, il est possible que le croyant intelligent rejoigne par sa théologie l'enseignement de la sagesse de Dieu en essayant de comprendre à travers ce langage symbolique ce qui nous est directement dit du mystère, puisque le mystère nous est donné à travers un langage symbolique. Et au fond, tout ce que saint Thomas dit sur la doctrina sacra se résume à ça, avec ce souci du théologien du Moyen-Âge de montrer que ce que le théologien dit, eh bien oui, a une valeur probante. Ce que le théologien dit a une valeur probante. Donc ce que le théologien dit est vraiment sagesse, est vraiment scientifique. C'est parce que c'est une valeur probante. C'est pas simplement, voyez, une espèce de petit commentaire pieux. Parce que je peux faire un petit commentaire pieux de l'écriture, hein. Alors, le petit commentaire pieux de l'écriture regarde les âmes pieuses, mais ne regarde pas les intelligences. Quelquefois, ça vaut mieux, mais quelquefois, ça vaut moins bien. Tout dépend du caractère de la piété. Mais c'est très vrai qu'à côté du commentaire pieux, je peux donner un commentaire intelligent. Et je peux essayer de comprendre que la parole de Dieu contient toute une théologie. Et c'est vraiment la parole de Dieu qui contient une théologie. Parce que le symbolisme divin qui provient de la sagesse implique tout un enseignement de sagesse. Et je peux rejoindre cet enseignement de sagesse par ma théologie. Et qu'au fond, le but de la théologie scientifique, c'est de rejoindre l'enseignement de la sagesse de Dieu, à travers un langage symbolique. Et je crois que ça situe bien la place de la théologie. Et ça montre bien que la foi ne s'oppose en rien à la philosophie, ne s'oppose en rien à l'intelligence, mais qu'elle demande au contraire que l'intelligence aille jusqu'au bout de ses exigences. Alors, pour mieux comprendre ce problème de l'intelligence et de la foi, je crois que maintenant, il serait bon, non pas de lire avec vous tout le traité de la foi de saint Thomas, mais de lire quelques grandes questions de la foi. Je crois que c'est très important, ça. Qu'est-ce que c'est que la foi ? Qu'est-ce que c'est que le mystère de la foi ? Alors, si vous voulez, nous verrons au moins quelques questions sur l'objet de la foi. Et puis, nous essaierons de réfléchir sur ce que saint Thomas nous dit sur l'objet de la foi, en nous disant, est-ce que l'objet, ce que saint Thomas nous dit sur la foi, c'est l'œuvre du théologien ? Donc, ce n'est pas objet de foi. C'est une conclusion scientifique. Vous voyez bien, il faut être loyal. Ce que saint Thomas nous dit sur la foi est à l'intérieur même de sa théologie. Donc si ce que dit saint Thomas sur la foi est à l'intérieur même de sa théologie, ça ne fonde pas la théologie. C'est un fruit de la théologie. Mais je peux me servir de ce que dit saint Thomas sur la foi pour essayer de mieux comprendre le mystère de la foi. Alors, nous allons regarder ce que saint Thomas nous dit. Ceci, c'est au début de ce que nous appelons la secunda secundae, la seconde partie de la somme, où nous regardons la vertu théologale de la foi. En ce qui concerne donc les vertus théologales, il y aura à considérer la foi.